Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette rencontre, cette table ronde. On a une heure, il me semble, cette table ronde autour de la figure de Janet Malcolm. Janet Malcolm, journaliste, autrice américaine, qui est née à Prague en 1934, qui est morte en 2001 à New York. Janet Malcolm, qui est un des grands noms du New Yorker, on y reviendra, et une figure de ce qu'on appelle, on pourra y revenir aussi, parce qu'il y a plein de noms, plein de définitions, du journalisme narratif, de la non-fiction. Pour le dire vite, mais je pense que je vais être aidé aujourd'hui, on pourrait dire que le journalisme narratif, c'est raconter le réel avec quelques-uns des outils, des atours de la fiction. Et une des particularités aussi du journalisme narratif de la non-fiction, c'est aussi l'usage de la forme personnelle, du jeu. Et il y a pas mal de choses à dire aussi sur la manière dont Janet Malcolm emploie le jeu. Voilà. On va peut-être parler très vite et tout de suite des livres, parce que Janet Malcolm, on la connaît pas forcément super bien en France, et on continue en fait à la découvrir. Deux de ses livres avaient été traduits dans les années 80 en France. En 2013, on avait eu la première traduction en France chez François Bourin du journaliste et l'assassin, qui est en fait son livre le plus connu. Et on a une réédition ces jours-ci, là, toute récente, de ce livre, Le journaliste et l'assassin, dans une traduction donc de Lazare Bitoun aux éditions du Sous-Sol. Et on a plutôt l'année dernière, découvert ce livre, La femme silencieuse, traduit par Yakuta Alikavazovic, qui est avec nous. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, ça va être de naviguer principalement entre ces deux livres. Et en parlant un petit peu plus du journaliste à l'assassin, parce qu'il synthétise voilà, plein de choses sur la posture du journaliste, etc., même s'il y a plein de choses à dire sur la femme silencieuse, mais voilà. Il y a trois intervenants aujourd'hui, trois regards, trois voix complémentaires qui vont nous permettre d'évoquer la mémoire, l'héritage, la personnalité, les livres de Janet Malcolm. Je vais commencer donc par Yakuta. Vous êtes romancière, traductrice, vous êtes chroniqueuse aussi à Libération, où je travaille moi-même au service livre. Et donc vous avez traduit ce livre. Peut-être qu'on peut, en fait, d'ailleurs, commencer tout de suite. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce texte-là? Comment il est arrivé jusqu'à vous?
Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, bien. Madame n'a pas l'air d'entendre, si. Non? Ouais. Je vais parler un peu plus fort pour vous dire comment le texte est arrivé jusqu'à moi. Il faudra présenter Adrien tout à l'heure, puisque c'est par son entremise que ce livre, je dois dire remarquable, est arrivé jusqu'à ma table de chevet. J'avais lu Le journaliste et l'assassin, ouais. Nous en parlerons, donc j'étais coutumière serait un grand mot, mais j'étais déjà familiarisée avec la méthode Malcolm et son ton très particulier et sa façon extrêmement singulière d'appréhender le réel sur lequel elle se propose d'écrire. Ce qui m'a toujours plu chez elle, on en reparlera, c'est qu'elle s'interroge sur la dimension morale de son activité journalistique, sur l'éthique, la morale du journalisme, de cette activité journalistique et littéraire qu'est la biographie. Jusqu'où peut-on aller? Comment peut-on raconter la vie de quelqu'un? A-t-on seulement le droit de le faire en réalité? Est-ce que c'est une entreprise qui est légitime? Et pour construire sa réflexion, qui est une réflexion extrêmement riche, extrêmement personnelle, extrêmement pertinente encore et peut-être même surtout aujourd'hui, elle s'appuie dans La femme silencieuse sur le cas très connu de la poétesse Sylvia Plath, qui s'est suicidée, donc épouse de Ted Hughes, autre très grand poète, qui s'est suicidée à l'issue de leur séparation et qui devient, après son suicide, une icône poétique, une icône littéraire, une icône féministe. Et Janet Malcolm décide de se pencher sur la façon dont le mythe Plath a été construit, dont il a été, si on voulait employer un anglicisme que j'aime beaucoup, dont il a été weaponisé, dont on a fait du mythe de Plath une arme idéologique à certaines fins, et dont finalement, dans ce discours premier sur cette poétesse suicidée dans des circonstances tragiques, puisqu'on n'est même pas sûr, moi je l'ignorais avant de lire le livre de Janet Malcolm, on n'est même pas sûr que Sylvia Plath se soit suicidée volontairement. Hein. Elle vient de se séparer de Ted Hughes, ça fait quelques mois que Ted Hughes est parti, et elle laisse du lait et des biscuits pour ses enfants à l'étage. Elle met une serviette sous la porte de la chambre où ils dorment et elle se met la tête dans le four. Et elle meurt par asphyxie au gaz. Et j'ai appris en lisant ce livre que c'était peut-être un appel au secours. C'était peut-être pas un suicide délibéré, qu'elle comptait sur l'intervention du voisin du dessous, qui lui-même a été empoisonné, assommé et endormi par les vapeurs toxiques et ne s'est pas réveillé à temps pour ouvrir à l'infirmière qui devait venir le lendemain matin. Voilà, ça, c'est de la spéculation, c'est de l'hypothèse, mais, et je vous raconte ça à dessein parce que ça montre à quel point le sujet est explosif, le sujet est pathétique au sens premier du terme, au sens fort et émouvant du terme. Une grande poétesse, une jeune mère qui se suicide dans ces circonstances-là, c'est de la chair à tabloïd et c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre à cette époque. Janet Malcolm se penche sur le mythe de Plath et part à rebours. Donc c'est une espèce d'investigation dans le temps, à la fois du côté des sources primaires, c'est-à-dire de toute la correspondance à laquelle elle réussit à avoir accès, sachant que la correspondance de Plath, les journaux intimes de Plath, appartiennent à Ted Hughes et à la famille de Ted Hughes, lequel est supposé avoir eu une main non négligeable dans son suicide. Donc comment avoir accès aux sources? Que disent ces sources une fois qu'on y a accès? Qui vous les procure? Parce que la famille Hughes est soupçonnée de garder par devers elle toutes les archives qui pourraient cautionner la théorie de Ted Hughes, assassin ou bourreau de femmes ou je ne sais quoi. Donc déjà la question de l'archive, elle s'intéresse aux sources primaires, elle s'intéresse aux sources secondaires, toutes les biographies existantes de Sylvia Plath, et notamment à l'une qui a été démolie par la critique sur Sylvia Plath parce que, avance Janet Malcolm, l'autrice n'adhérait pas au discours officiel sur la poétesse. L'autrice avait travaillé trop près de la belle-sœur de Sylvia Plath, la sœur de Ted Hughes. La biographie était irrecevable, la biographie était corrompue, il y avait une collusion entre la biographe et les Hughes. Et à partir de ça, qui est à la fois une espèce de débat de spécialistes et, je vous le disais tout à l'heure, de chair à tabloïd, Janet Malcolm déploie une réflexion absolument phénoménale sur les possibilités, le potentiel, les droits et peut-être même les devoirs de l'activité biographique. C'est extraordinaire. C'est une grande leçon d'écriture, de biographie, d'écriture journalistique, mais d'écriture tout court, en vérité. Ça se lit, moi je l'ai lu comme un polar. Et juste avant de passer la main à mes chers amis, la raison, j'ai adoré ce livre, mais la raison pour laquelle il y a une toute petite phrase pour laquelle je me suis dit, oui, je vais passer quelques mois en compagnie de ce livre, parce que c'est pas rien de traduire un livre. Donc on s'engage à passer quelques mois avec, mieux vaut se dire qu'on va pouvoir les supporter. Hein. C'est moi et cette voix qui va vous parler. Et c'est un tout petit fragment. Janet Malcolm rapporte, la belle-sœur de Sylvia Plath, donc la sœur de Ted Hughes, Brownmoon Hughes, rapporte une dispute avec Sylvia Plath sur quelque chose d'absolument trivial. Qui a mangé le pâté? Ah, elle a invité Sylvia dans sa maison de campagne et Sylvia a mangé tout le pâté qui était prévu pour l'apéro. Oh là là, quelle mal élevée cette Sylvia. Et à un moment, elle dit quelque chose qui est « Et Sylvia ne répond rien. » Elle l'accuse et Sylvia ne répond rien. Et Bronwyn est décontenancée par ce silence. Et là, Janet Malcolm glisse, et ça c'est la touche, c'est la méthode Malcolm, elle dit « À croire que Sylvia Plath maniait le silence comme une arme. » Et c'est exactement de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il est question en poésie, c'est de ça qu'il est question quand on regarde les blancs des archives, les blancs des sources, qui raconte quoi, est-ce qu'on raconte toute l'histoire, comment on cadre, qu'est-ce qu'on fait et à quelle fin, pour ou contre qui. Et ça, ce silence qui est devenu une arme, ça m'a, j'ai trouvé ça renversant et j'ai dit à Adrien, oui, on y va, allons-y.
Ariane Chaumin, vous êtes journaliste au Monde, autrice. Vous avez publié à la rentrée 2023 un livre, un récit qui s'appelle « Ne réveillez pas les enfants », c'est aux éditions du sous-sol. Un récit dans lequel vous convoquez Janet Malcolm et peut-être que vous-même, évidemment, les questions soulevées par Janet Malcolm sur l'emploi de la forme personnelle, sur la position du journaliste, sur ce que c'est que les frontières entre fiction, non-fiction, roman, sont évidemment au cœur de votre travail et vous inspirent, j'imagine. Mais peut-être, pour poursuivre et continuer à distribuer la parole, vous me disiez qu'il y a une image que vous aimez bien chez Janet Malcolm en particulier, c'est la distinction qu'elle pose entre roman et non-fiction, et elle a une manière très concrète en fait de présenter les choses, et elle fait une sorte de comparaison avec, on pourrait dire, le bâtiment.
Alors, je laisserai tout à l'heure Adrien parler de ce livre, parce que je sais qu'il en parle très bien, parce que c'est Le journaliste et l'assassin, c'est un livre formidable, parce que c'est pas seulement une réflexion sur les relations que peut entretenir le journaliste avec son sujet, mais c'est aussi une formidable polar, c'est un livre à trois étages, enfin, tu le raconteras. Et c'est vrai que c'est un livre que les journalistes, on a eu un petit moment du mal à lire parce qu'il était épuisé, il avait été publié dans une autre maison d'édition, il vient d'être réédité, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est le livre que tous les jeunes journalistes, tous les journalistes devraient lire, parce que c'est le livre qui vous oblige à vous interroger sur votre travail. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent raconté, les scrupules du journaliste, la petite morale que chacun se fabrique. Et puis, il y en a d'autres sujets d'ailleurs qui ne sont pas abordés. Je trouve qu'il y a un sujet qui me passionne, mais on en parlera sans doute peut-être plus tard. Et donc, ce livre, je l'ai lu. Et en fait, il voyage avec moi, il me hante parce que ce livre, je l'utilise. Enfin, c'est pour moi, j'en fais un usage. Je suis une usagère du journaliste et de l'assassin. D'abord parce que effectivement, quand on décide de ne pas faire de la fiction, enfin moi j'en serais totalement incapable, mais quand on décide de faire, je sais pas comment l'appeler, de l'écriture du réel ou de la non-fiction, je pense que la définition que fait Janet Malcolm de la différence entre la fiction et la non-fiction est la meilleure qui soit, la plus imagée, mais la plus facile à comprendre. Elle dit, voilà, un auteur de roman, un auteur de fiction, c'est comme si il a une maison, il est propriétaire d'une maison, et quand on est propriétaire d'une maison, on fait ce qu'on veut avec. On peut abattre les murs, on peut bâtir le nombre d'étages qu'on veut, on peut inventer, on est quasiment un architecte de, voilà. Et l'auteur de non-fiction ou le journaliste, eh bien, lui, il est locataire, donc il doit faire attention à ce qu'il fait. Il peut pas tout détruire. Il a payé un bail. Il y a une caution. Il doit rendre la caution à la fin. Et je trouve que c'est vrai que j'aime la définition qu'elle donne de la fiction et de la non-fiction, parce que c'est finalement la meilleure, je trouve. Tout le monde tourne un peu autour du pot et j'ai pas trouvé mieux. Alors donc effectivement, le journaliste et l'assassin, c'est pour moi, ça donne pas une très belle image du journalisme, mais en tout cas ça donne l'image d'un journaliste qui réfléchit. Et c'est vrai que quand on est journaliste, le temps n'y fait rien. On se pose quotidiennement ce genre de questions. Si on n'a pas de scrupules, c'est grave d'une certaine manière. Alors, elle a une conclusion très négative. Janet Malcolm, elle dit que tout journaliste est malhonnête, en gros. Dans la nouvelle édition qu'a publié Adrien, qui est préfacée par Emmanuel Carrère, il essaye de dire non, c'est pas forcément le cas. Il explique que, bon, mais c'est vrai que le nombre de fois où un journaliste se sent pas très bien parce qu'il se dit là, quand même, peut-être que. Et c'est vrai que ça m'arrive très souvent. Ça m'est encore arrivé il y a 3 jours. Et si je devais citer un exemple typique du malaise qui peut vous saisir, je me souviens d'être allée à Prague où on avait les archives de la période soviétique qui avaient été ouvertes, et je me penchais sur les pas de Milan Kundera, pour un livre d'ailleurs au sous-sol, et on m'ouvre les archives, et là, c'était l'époque où Milan Kundera et sa femme Vera étaient surveillés par la police secrète. Et là, dans ce dossier, il y a tout. L'enregistrement de leurs conversations, des choses évidemment complètement stupides et absurdes comme pouvait être le régime à l'époque et comme l'est tout totalitarisme. C'est-à-dire c'est complètement absurde le temps passé par ses fonctionnaires à savoir avec qui Vera Kundera prend le thé, etc. Mais il y avait une chose qui m'avait frappée, c'est que Milan Kundera, qui est très superstitieux, allait voir des cartomanciennes. Il est allé voir une cartomancienne et là, la cartomancienne lui avait expliqué, je sais même pas si j'ose le dire maintenant, il lui posait des questions sur sa vie privée. Et la cartomancienne, il expliquait son malaise, et sa cartomancienne répondait. Et tout ça a été couché noir sur blanc sur ses procès-verbaux. Et c'était, d'un point de vue, si j'avais été romancière, c'était formidable. C'était une matière formidable. Et forcément, là, le scrupule du journaliste s'installe. Est-ce que j'ai le droit de répéter ça, même si c'est, d'un point de vue romanesque, exceptionnel ? Et voilà, et donc j'ai été peut-être un peu moins perverse que le journaliste de Majornet Malcolm, et je ne l'ai pas fait. Mais parfois, j'ai dû faire des choses, au contraire, dont je ne suis pas forcément très fière. Donc on est toujours sur cette ligne de crête, on se fabrique cette petite morale personnelle, et c'est en ce sens que ce livre est très intéressant pour les journalistes.
Ce qu'elle dit même, c'est que dans le nouveau journalisme, on a le droit de bouger les meubles. C'est très précis, en fait, ce qu'elle fait.
Elle pousse un peu les meubles, ouais. Mais on ne change pas la couleur de la peinture.
Voilà. Je poursuis avec Adrien Bosque. Vous êtes écrivain, éditeur, fondateur des éditions du Sous-sol, une maison d'édition qui fait la part belle à donc la non-fiction, évidemment. Puisque chacun a eu sa petite question, je me suis dit qu'on allait quand même demander à l'éditeur, parce que c'est quand même pas un cadeau, de présenter le journaliste et l'assassin. Effectivement, il y a une préface d'Emmanuel Carrère, et la préface commence comme ça. C'est une histoire à trois étages. J'allais dire qu'Emmanuel Carrère, il est presque gentil, parce qu'en fait, c'est comme une sorte de millefeuille. On a comme ça énormément de strates dans cette histoire. Et donc je vais laisser Adrien prendre les choses. Mais peut-être qu'on peut dire qu'au début, il y a un meurtre en 1970.
Oui, bonsoir. Alors oui, c'est une histoire à tiroir et elle est un poil long à raconter, mais elle est assez passionnante et elle montre pourquoi Janet Malcolm s'y intéresse de près. Tout à l'heure, Yakuta parlait de la relation... limite entre Place et Hughes et du devenir de l'œuvre de Place dans le contexte de ce suicide et de la façon dont il a été raconté ou dont l'histoire s'est racontée. Ce qu'on voit, et avant que je vienne à l'histoire du journaliste et assassin, c'est une obsession en tout cas chez Malcolm, et c'est pour ça que ces deux livres d'une certaine manière fonctionnent en diptyque. Que d'un côté vous avez la relation du biographe avec son sujet, dont elle dit qu'il est forcément un cambrioleur. On voit l'image et ça rejoint les scrupules du journaliste ou ce que tu as pu dire à propos des archives pour Kundera. Et de l'autre, le journaliste, elle le dit, est forcément moralement indéfendable, et il le sait. C'est ce que dit le journaliste et assassin. Et dans les deux cas, ce qu'elle va chercher, c'est un cas limite. C'est un cas exemplaire, édifiant, pour s'introduire elle, et au travers d'un récit qui emprunte qui est une façon de raconter l'histoire, ce qu'elle glisse dans les interstices et constamment, c'est un essai. Donc elle fait la part belle à l'histoire, elle vous la raconte, mais c'est un travail essayistique, et c'est ça qui fait la singularité du travail de Malcolm, c'est que c'est une essayiste dans le New Yorker, en gros. Elle arrive à raconter ses histoires, mais elle se pose des questions plus fondamentales sur son métier, sur le métier des autres, puisque l'autre de ses livres fameux s'appelle « Psychanalyste, un métier impossible ». Et on voit bien que de la même manière, ce qu'elle vient interroger, c'est le rapport de l'observant et de l'observé, de celui qui se raconte et de celui qui écoute. Dans Le Journaliste et Assassin, donc pour y revenir, c'est l'histoire d'un fait divers. Jeffrey McDonald, on est en 1970, un meurtre a lieu, plusieurs meurtres. En fait, une femme est retrouvée morte, ses deux fillettes également, c'est un crime atroce. Et le mari, qui s'appelle Jeffrey McDonald, qui est médecin militaire, est retrouvé assommé à côté, laissé pour mort. Et assez vite, va défendre une thèse assez intenable qu'il a fait, que sa famille a été assassinée de la même manière que les victimes de la secte Manson par une horde de fous furieux qui ont attaqué leur famille de manière gratuite. Il est soupçonné, l'enquête est en cours, il est emprisonné le temps de l'enquête, un procès va avoir lieu, et là, un écrivain en mal de sujet, d'une certaine manière, un écrivain en quête de sujet, il faut se remettre dans un contexte qui est postérieur à la parution de Sang-Froid de Truman Capote, et donc, cette obsession d'aller trouver le fait divers pour raconter autre chose et d'aller un tout petit peu plus loin que le simple récit de ce fait divers. Cet écrivain en mal de succès, en mal de sujet, je dis en mal de succès parce que c'est une phrase assez drôle qu'a Carrère dans la préface, je crois, il dit Joe McGuinness, donc c'est l'écrivain, fait partie de cette catégorie assez particulière d'écrivains qui sont des écrivains de best-sellers qui ne se vendent pas. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il a l'obsession de faire un succès, mais ne fait pas. Il en a eu un dans le temps, mais c'est, disons, son obsession n'est pas tant littéraire que d'aller trouver la bonne histoire. Donc lui, il voit la bonne histoire dans cet horrible meurtre et dans les dénégations du présumé coupable. Il s'appelle Joe McGuinness, il va se rapprocher d'un éditeur, proposer ce sujet va être signé. Et il va d'emblée se rapprocher du coupable pour essayer, enfin du coupable, du présumé coupable, pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Et pour ce faire, comme ça existe aux États-Unis, ils vont signer un contrat entre l'éditeur, l'agent, l'auteur et Jeffrey McDonald, donc le présumé coupable. Un contrat qui les amène à avoir une relation donc contractuelle avec un versement d'avaloir de toutes parts, mais aussi la garantie pour l'écrivain qu'il sera le seul à avoir accès en proximité à Jeffrey McDonald, qu'il lui fera des confidences et qu'il suivra l'intégralité de la préparation du procès jusqu'au procès. Pardon, c'est un peu long, mais l'histoire est donc à tiroir.
C'est le premier tiroir.
Voilà, ça c'est le premier tiroir, on l'a à peu près vidé. On arrive au deuxième tiroir, le procès a lieu. Le procès a lieu et la préparation du procès a lieu. Et Joe McGuinness, l'écrivain, eh bien, d'une certaine manière, rentre dans l'équipe de défense, au sens de football, mais américain du terme, puisque les deux, Joe McGuinness et Jeffrey McDonald, sont deux copains, sont deux fanas de football et regardent les matchs comme deux copains regarderaient les matchs en buvant des bières, passent le temps du procès à se parler, deviennent assez proches, même amis, se font confidence. Le procès a lieu. Durant le procès, disons que les preuves sont assez accablantes pour Jeffrey McDonald. Le jury se prononce et il est condamné pour le meurtre de sa femme et de ses deux fillettes. L'écrivain Joe McGuinness quasi fond en larmes, envoie des lettres par la suite au désormais coupable en lui disant tout son chagrin, à quel point ceci lui paraît une injustice, et continue à converser avec lui, que ce soit au parloir ou que ce soit de façon épistolaire. Quelques années passent et enfin, on est au deuxième tiroir et à la fin du deuxième tiroir, le livre paraît. Le livre s'appelle Fatal Vision et le livre est totalement à charge. Et explique que Jeffrey McDonald est un complet psychopathe. Et donc, Joe McGuinness a d'une certaine manière trompé son sujet en lui laissant croire pendant des années qu'il serait de son côté, que le livre serait une manière de le d'une certaine manière d'être un livre à décharge et que leur amitié transcendait même la possibilité, enfin qu'il serait de toute façon de son bord. Ça, c'est la parution du livre Fatal Vision, qui est plutôt un succès, qui va être adapté au cinéma. Et dans la foulée, Jeffrey McDonald, se sentant trahi, va attaquer Joe McGuinness, non pas pour diffamation, mais pour rupture de contrat et mensonge, enfin le fait d'avoir d'une certaine manière profité de la situation. Et donc un deuxième procès a lieu. Là, on est sur le troisième tiroir. Et là, évidemment, Janet Malcolm entend parler du procès. Et elle, un peu comme Truman Capote, s'était intéressée à l'histoire de l'Arkansas en lisant dans le New York Times un entrefilet. Elle, ça serait pas ça qu'il... Enfin, Janet Malcolm n'aurait eu peu d'intérêt à l'entrefilet de l'Arkansas. Elle, l'idée qu'un journaliste soit attaqué par son sujet devient l'histoire excellente pour poursuivre sa démarche, poursuivre son interrogation sur l'observé, l'observant. Sachant que Janet Malcolm, pour psychanalyste, un métier impossible, était à ce moment-là attaquée par l'un des sujets de son livre qui lui réclamait, je crois, $1 million pour l'avoir caricaturé dans le livre d'une certaine manière. Donc a lieu ce deuxième procès qu'elle va suivre et c'est d'une certaine manière l'objet du livre Le journaliste assassin, qui est à la fois de raconter ce procès, rencontrer les différents protagonistes, mais aussi ceux qui ont voulu écrire sur l'histoire et qui racontent les coulisses. Et ça devient, et c'est ce que je disais, un livre qui est une interrogation de bout en bout sur la réalité, la fiction. On résume effectivement à réalité-fiction ce que l'on peut faire de la réalité, de quelle façon écrire sur le réel, c'est toujours être en position de faiblesse. Mais c'est aussi, elle prend toujours le parti du pire, donc parfois elle se met du côté de l'écrivain Joe McGuinness et raconte des choses comme le fait qu'il était presque obligé d'aller vers un livre de fiction parce que son personnage, et ça on pourrait y revenir, n'était pas si fantastique que ça. Et ça c'est quelque chose qui est très curieux dans le livre, mais qui est à quel point les écrivains de non-fiction cherchent des personnages qui sont des personnages de fiction. Et s'ils ne le sont pas, c'est extrêmement décevant, soit ils arrêtent, soit ils en rajoutent.
Et il faudrait donc rajouter un autre tiroir encore, c'est que Janet Malcolm elle-même se trouvait en fait embourbée dans un procès à la suite en fait d'un livre qu'elle avait publié, donc Tempête aux archives Freud. Et elle, finalement, elle boucle sa boucle parce que c'est aussi ce qu'on lui a reproché à la sortie du livre. Et c'est en disant que c'était une manière de justifier, qu'il y avait une forme de projection, etc. Et en fait, le livre dessine aussi la trajectoire d'un retour vers soi. Parce qu'elle elle revient aussi sur ce procès qu'elle a finalement gagné d'ailleurs. Peut-être on pourrait entendre, je vais vous lire en fait tout simplement les premières phrases du livre, parce que on en a parlé, donc ce sont les lignes avec lesquelles Emmanuel Carrère dit qu'il n'est pas du tout d'accord, absolument pas d'accord. Mais voilà, je vais vous laisser juger. Le journaliste, qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face, le sait bien. Ce qu'il fait est moralement indéfendable. Il est tel l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Tout comme la veuve crédule qui se réveille un beau matin pour constater que le charmant jeune homme s'est envolé avec ses économies, celui qui consent à devenir le sujet d'une œuvre écrite de non-fiction paie au prix fort la leçon qu'il reçoit le jour de la parution de l'article ou du livre. Suivant leur personnalité, les journalistes trouvent à leur traîtrise différentes justifications. Les plus pompeux parlent de liberté d'expression et du droit du public à savoir. Les moins talentueux parlent d'art et les minables marmonnent qu'il faut bien gagner sa vie. Alors, Emmanuel Carrère dit qu'il est totalement en désaccord avec Janet Malcolm et il fait quelque chose de... La préface, elle est courte, mais elle est assez dense. Il fait quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en fait, elle se contredit elle-même, Janet Malcolm, parce qu'elle est en fait exemplaire dans le livre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Peut-être, Ariane, comment vous réagissez-vous à cette introduction ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Carrère ? Est-ce que vous êtes totalement en désaccord avec ce que dit Jane Falcon.
J'aimerais être d'accord avec Emmanuel Carrère. C'est vrai que c'est un livre qui pose question à tout journaliste que de lire que le métier que vous faites est moralement indépendant. Mais ce sont, c'est toujours la même chose. L'important, c'est de se questionner. Et en fait, moi, je l'ai relu, ce livre, parce que, effectivement, vous disiez, je me suis penchée sur un étrange fait divers, et même ce mot-là, j'ai du mal à le dire, qui était... l'histoire d'une famille entière d'origine algérienne qui s'est jetée du dernier étage d'un immeuble en Suisse en 2022. Et je me suis heurtée deux fois à ce problème moral. C'est pour ça que je me suis replongée dans ce livre et que je l'ai cité d'ailleurs. La première fois, c'est que je voulais rentrer en contact avec un membre de la famille. C'était une famille qui était très célèbre en Algérie, la famille Feraoun. Mouloud Feraoun est un auteur très important en Algérie qui est mort assassiné en 62. Et donc j'ai appelé le fils aîné de Mouloud Feraoun et je lui ai dit « Je voudrais que vous me parliez de votre père ». Et c'est vrai que je ne lui ai pas parlé du drame qui s'était passé en Suisse parce que je savais qu'il m'aurait raccroché au nez tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Effectivement, je suis dans une semi-feinte, mais je ne lui mens pas. Je m'étais dit « Je ne veux pas lui mentir ». Et je lui avais expliqué exactement ce que je voulais faire et que je voulais écrire un livre et que je m'intéressais à son père. Et il a été absolument charmant. Bon, l'histoire s'est très bien terminée, mais même si au milieu, tout d'un coup, il m'a dit « Je ne suis pas tout à fait sûre que vous soyez très honnête et que, en fait, vous ne parliez pas d'autre chose. » Donc, il a boudé pendant deux mois, puis le livre est paru et on est devenus les meilleurs amis du monde. Ouf. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Et puis, une autre fois, il se trouve que, en enquêtant en Suisse, j'avais pris langue avec un journaliste suisse qui malheureusement est décédé il y a quelques mois et que j'adorais, mais qui était vraiment un journaliste à l'ancienne, à la Paris Match, c'est-à-dire qu'il mettait un pied dans la porte. C'était, je pense qu'il faisait ce qu'on appelle souvent la récup photo, c'est-à-dire qu'il était capable, à mon avis, lors d'un fait divers, je ne l'ai jamais vu faire, hein, mais j'imagine assez bien d'aller piquer deux, trois photos à l'intérieur de la maison pour... Bon, il était comme ça. Et donc, il me dit, puisque tu enquêtes en Suisse, etc., je vais te présenter quelqu'un qui était l'un des acteurs de la fameuse histoire du Temple solaire. Et lui-même avait été le meilleur enquêteur sur le Temple solaire. Et donc, je lui dis, mais c'est bizarre, après ce que tu as écrit sur lui, tu es toujours ami avec lui. Il m'a dit, oui, on s'est réconcilié. Et donc, il a fait venir en Suisse pour me le présenter. Cette chef d'orchestre qui s'appelle Michel Tabachnik, qui était l'un des protagonistes du Temple solaire. Et là, j'ai observé leur relation. C'est-à-dire que l'un, à cause du journaliste, Michel Tabachnik avait été mis en examen, avait connu deux procès dont il s'est bien sorti d'ailleurs. Mais aujourd'hui, par exemple, il ne peut pas donner des concerts en France. Bon, donc c'est quand même pas rien. Et en fait, 10 ans après l'enquête... Mon ami Arnaud, qui, je pense, n'avait pas lu Jeannette Malcolm, a été rongé par une espèce de culpabilité et a décidé de reprendre contact avec cette personne qui lui en voulait à mort, autant vous dire. Et j'ai observé cette relation nouvelle qu'ils avaient, que je raconte devant moi. En fait, Michel Tabachnik, il sait au fond de lui que cet Arnaud avait bien fait son travail de journaliste. Et cet Arnaud qui se disait, peut-être que si j'avais enlevé un ou deux détails, il ne serait pas arrivé... toute cette catastrophe qui est arrivée dans sa vie. Et ça m'a intéressée. Et c'est pour ça que je me suis plongée dans Jeannette Malcolm et que j'ai vu que c'était quelque chose qui tout enquêteur qui s'interroge, Jeannette Malcolm est au-dessus de sa tête et il se pose ses questions. Donc j'aimerais être d'accord avec Emmanuel Carrère en disant qu'on peut faire tout ça très honnêtement, malgré tout. Je l'espère.
Si on continue d'avancer dans le livre, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais que dans tout le premier passage, là, elle n'utilise pas le jeu. Et qu'en fait, la première occurrence du jeu, c'est à la page 21, où elle écrit « Je n'ai entendu parler de cette affaire qu'une fois le procès terminé, grâce à une lettre d'un certain Daniel Kornstein, datée du 1er septembre 1987. » Je trouve que la manière dont Jeannette Malcolm emploie le jeu est assez intéressante, parce qu'en fait, elle fait la même chose dans La femme silencieuse. On a un premier passage où elle parle des différentes biographies de Sylvia Plath. À ma connaissance, pareil, pas de jeu. Et deuxième chapitre, elle commence ce chapitre en disant: la première fois que j'ai lu Bitter Fame, qui est donc l'une des biographies de Sylvia Plath, à la fin de l'été 1989, J'ignorais toutes les tensions autour du projet et je ne m'intéressais pas particulièrement à Sylvia Plath. C'est d'ailleurs assez drôle de commencer. On voit bien aussi l'humour un peu acerbe de Sylvia Plath, de Jeanette Malcolm, pardon. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a cette manière, dans les deux cas, comme d'entrer sur scène à un concert à la deuxième chanson, quoi. C'est-à-dire qu'elle a laissé comme ça, les entrées en matière sont très fortes, les accroches sont très fortes, mais c'est comme si elle avait laissé le concert et d'un coup elle entre comme ça sur la scène et elle commence à dire je. Pareil, un petit passage que je vais vous lire, c'est à la fin du journaliste et l'assassin sur le jeu, qui est un passage assez marrant et puis je pense qu'on se rend bien compte de ce qu'elle veut dire. Le jeu journalistique relève presque entièrement de la pure invention. À l'inverse du jeu de l'autobiographie destiné à être compris comme étant une représentation de l'auteur, le jeu du journalisme n'est relié au journaliste que par un fil ténu, semblable à celui qui relie, disons, Superman à Clark Kent. On a bien l'image. Peut-être là-dessus, moi, j'aimerais bien vous entendre sur... la manière dont, pour vous, Jeanette Malcolm utilise, joue avec cette forme personnelle. Et puis, comment ça résonne, vous, avec votre propre écriture ? Par exemple, Yakuta, je sais que, pour vous lire, que dans vos chroniques, vous dites « je ». Comment est-ce que... qu'est-ce que ça change, ce « jeu dans l'écriture, la relation entre l'expression de soi, la distance
Alors, vous avez dit une chose très juste sur l'irruption un peu tardive du jeu chez Jeanette Malcolm. C'est-à-dire que juste au moment où on croit être installé dans une histoire, hop, on se décale d'un cran et la problématique ne va pas être celle qu'on croyait. Mais on ne se décale pas vers l'abstraction. Au contraire, c'est à ce moment-là que ça devient réellement un thriller. Et en ce sens, ces livres commencent comme Psychose d'Hitchcock. On croit qu'on est dans une histoire, on croit avoir compris qui était l'héroïne, et bam, au bout de 27 minutes, la douche, et ensuite, on remet une pièce dans la machine, que s'est-il passé ? Donc ça, c'est la capacité thrilleresque de Jeanette Malcolm à nous déstabiliser, et à nous déstabiliser en plus, oui, on éprouve le frisson, mais on éprouve avec elle le frisson très particulier, frisson moralement acceptable, qui est celui de la réflexion sur un genre qui se crée. Et le jeu de Jeanette Malcolm, il est là uniquement pour vous guider dans une interrogation morale. Donc son jeu n'apparaît qu'à des moments, et vous verrez dans La femme silencieuse, pour l'avoir traduit, donc je le connais bien, mais je crois que ça s'applique également au journaliste et l'assassin, vous me direz ce que vous en pensez. Son jeu est là comme une espèce de petite main qui est là, qui vous attrape, qui vous dit « si, c'est pour de vrai ce que je te raconte ». Viens, on s'installe. C'est elle, par exemple, c'est ce jeu dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on sait que c'est un regard avant tout. C'est ce jeu qui va remarquer les vêtements de son interlocutrice, la façon dont elle se tient, et c'est ce jeu qui est une instance d'interprétation constante. Et cette interprétation, c'est la matière même de son travail et c'est la matière même de son interrogation. Si toute écriture sur le réel est une interprétation de ce réel, alors est-ce que ça n'est pas, dans une certaine mesure, de la fiction ? Et ça, c'est très intéressant. Et ce jeu-là, il est effectivement pas comparable à celui qu'on déploie dans le roman. Encore que je trouve que les frontières se brouillent, sont brouillées, sont très fécondément brouillées, et que c'est le romancier ou la romancière qui s'en sort mieux, parce qu'il a plus de liberté. Ariane disait, il y a le scrupule du journaliste. Le romancier peut s'en détacher. Et je crois que on reconnaît un auteur ou une autrice, le camp auquel il appartient, non plus à ses qualités stylistiques, non plus à son sujet, mais à son rapport à ce scrupule. Au fait qu'il le revendique, ça ce sont les journalistes, ou qu'il s'en défausse, ça ce sont les écrivains plutôt d'obédience fictionnelle, disons.
Beaucoup mieux que la différence maison locataire-propriétaire.
Ah non, elle est géniale, parce qu'en plus, ce qui est beau avec, pardon, je pars un peu du jeu, mais le jeu de Janet Malcolm est un jeu qui aime les belles choses. Elle est très sensible aux beaux endroits, aux belles matières, aux ambiances, à l'art. C'est une vraie grande amatrice d'art. C'est souvent comme ça qu'elle entre chez les gens. Et ce regard-là, encore une fois, c'est ce regard, on se demande est-ce que c'est beau parce que c'est beau ou est-ce que c'est beau parce qu'elle l'a vu et qu'elle l'a raconté d'une belle façon. Ça aurait pu être absolument sordide, peut-être, ou alors on serait complètement passé à côté. Peut-être, non. On a ce jeu qui est une espèce d'œil comme ça, non dénué d'affect, non dénué d'interrogation, non dénué de scrupules, et qui vous promène dans des époques inconnues, dans des milieux inconnus. Et qui vous fait, je crois, un immense cadeau, puisque ce sont des livres qu'on peut lire pour toutes les mauvaises raisons qui font qu'on a envie de lire des livres qui parlent de meurtres atroces, de faits divers révoltants, d'exploitation et de mangeurs d'aura, finalement. Elle s'intéresse à ce phénomène qui est que certains événements, certaines personnes sont, tu disais, Adrien, des personnages dans le réel. Ils ont une aura que le reste du réel n'a pas. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Quel récit on peut en faire ? Quelle exploitation on peut en faire ? On se lance dans ces livres pour des mauvaises raisons et on reste, je crois, pour de bonnes raisons. Et ça, c'est la grande vertu de Janet Malcolm et l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles il faudrait toujours lire Janet Malcolm.
On a commencé à parler un peu des vêtements, de l'attention aux détails et aussi, d'ailleurs, parfois de l'humour, même si c'est pas peut-être ce qui ressort en premier lieu, mais quand même c'est là, de Janet Malcolm. Et voilà, quelques passages que j'ai relevés pour que vous puissiez vous faire une idée. Dans le journaliste et l'assassin, page 71. Âgé de 49 ans, Gary Bostwick est un homme qui n'a pas un physique exceptionnel. Il est un peu rond, porte une moustache tombante et cache ses petits yeux derrière des lunettes cerclées de métal. Mais il est manifestement d'une honnêteté sans pareil, plein d'humour et doté d'un esprit vif. Voilà. On a, par exemple, page 117, Stone, homme d'une cinquantaine d'années, possédant quelques rondeurs, un visage avenant et rose, avec des traits doux et des cheveux blancs, me fait signe de m'asseoir dans un des canapés de brocart placé devant une table basse en marbre. Pourquoi est-ce que c'est important, ces portraits comme ça, qui généralement font une phrase, pas plus? Avant de commencer à entrer dans la matière, voilà, Janet Malcolm, elle avance dans son enquête, elle recueille des témoignages, mais à chaque fois, on a, avant de commencer, un regard, comme ça, une silhouette tracée très vite. Pourquoi, à votre avis ?
C'est à moi que vous posez la question.
À qui veut ? Je ne sais pas, je pense que Ariane, par exemple, ça peut être une question pour vous.
Oui, camper. Non, mais c'est vrai. Camper quelqu'un, c'est pas forcément 10 000 signes et 10 lignes. Effectivement, il faut parfois simplement le petit détail qui vous accroche. Et puis, d'une manière générale, dans la non-fiction, c'est plus difficile que dans la fiction parce qu'on ne peut pas inventer, comme on l'a dit. Mais s'attacher aux petits détails qu'on ne relève pas parfois dans des situations. Par exemple, je pense au journalisme de guerre. Quand on va dans un pays en guerre, en général, il y a des détails auxquels on ne fait jamais attention. Moi, ce qui me frappe, parce que je pense à ça, parce que j'en reviens, ce qui m'a frappé, par exemple, les derniers voyages que j'ai faits en Ukraine, c'est des petits détails comme l'importance, par exemple, de la manucure en Ukraine. Une Ukrainienne ne sortira jamais, quelle que soit sa condition, sans vernis à ongles. Elle aura l'impression de sortir un peu nu ou... Et les ongles, c'est pas seulement un détail, c'est que les ongles, c'est aussi malheureusement par les ongles qu'on peut reconnaître quelqu'un quand il y a un missile qui tombe quelque part et que les corps sont déchiquetés. Ben on peut reconnaître, j'ai ce détail en tête parce que ça m'est arrivé. Il y avait un missile qui était tombé sur un repas de deuil et une jeune fille est morte et ses copines l'ont reconnue parce qu'elle avait la manucure noire qu'elle s'était faite pour 2 jours avant pour une fête, par exemple. Et ces petits détails-là aussi, là je ne vous parle pas de description, mais en fait l'intérêt de la non-fiction, c'est parler de petits détails à des moments ou dans des lieux ou dans des circonstances où on n'aurait pas imaginé qu'il fallait en parler, par exemple. Ça peut être ça.
Adrien.
Oui, et puis je rapprocherai du travail d'Ariane, parce que ce que j'aime dans les reportages d'Ariane, c'est effectivement un petit détail qui vient et qui devient extrêmement signifiant par la densité et justement l'aspect très brief, la brièveté du passage, c'est-à-dire du croquis. Mais là, il y a quelque chose qui jaillit et qui devient signifiant. Ça l'est parfois pas, et donc c'est comme une fausse piste. Elle fait ça assez souvent, Janet Malcolm, un peu comme parce qu'elle emprunte au genre policier, mais pour le détourner. Moi, j'ai tendance à dire que les livres de Janet Malcolm, c'est des thrillers intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes fasciné par la thèse et vous êtes obsédé par la résolution de la thèse ou la manière dont elle va. Donc, chaque argument, c'est comme si vous lisiez ce qui est peu commun, je ne sais pas moi, une copie d'argumentation qui serait haletante. C'est rare. J'imagine que c'est rare quand on les corrige, mais en tout cas, quand on les lit, ça arrive. C'est de grands essais qui sont comme ça. Mais là, en plus, elle emprunte aux faits divers. Et donc, elle vous laisse de faux indices. Toi, ça, c'est dans ton dernier livre, Ne réveille pas les enfants. Par exemple, il y a une scène dans la maison, dans l'une des maisons où la famille a habité, qui se trouve à Vernon, qui est une maison désormais dont un dentiste est propriétaire. Et toi, tu es dans la maison, tu regardes le dentiste, elle décrit un petit peu la scène, et puis son regard va se pencher un peu en hauteur et voir des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison. Et on sait que c'est dans le contexte de l'histoire, dans la présence même, l'omniprésence des caméras de surveillance dans cette histoire, puisque les corps en Suisse tombent au pied de ces caméras de surveillance, et que d'ailleurs, comme le dit, je crois, le procureur, de toute façon, en Suisse, tout est filmé à n'importe quel coin de rue, ce qui est le cas aussi en France, mais en tout cas, il y a cette omniprésence qui tient au réel et à l'ultra-réel de maintenant, et elle voit ces caméras, évidemment. Elle questionne le dentiste qui lui dit « Oui, c'est les anciens propriétaires, ils avaient mis du Vérissure partout. » Et on voit qu'on a accès effectivement à une part de leur paranoïa, à une part de leur folie qui se met en place à ce moment-là avant le drame et qu'elle vient saisir par un détail. Et ça, je pense que c'est une immense qualité, c'est d'aller chercher ce divin détail pour le faire resplendir. Et pour revenir à cette forme particulière, je trouve que c'est très juste ce que vous dites sur l'apparition en deux temps de Janet Malcolm, parce que justement, et ce que je disais sur le fait qu'elle emprunte au genre, elle ne délaisse jamais l'histoire, c'est-à-dire qu'elle vous la présente quand même. Elle vous la présente, mais elle vient se décaler et elle vient vous dire que finalement, un peu comme dans Le Limier, vous avez au début... dans le film de Mankiewicz, toutes les maquettes de maisons, vous regardez, vous dites ça va se passer là, ça va se passer là, et puis d'un coup il décale, et non, en fait c'est le décor de ces maquettes dans la pièce du limier, en fait c'est que ça, et c'est d'ailleurs un peu comme le livre de Vielle qui redécrit le limier, en fait c'est ce type de livre qui se questionne sur ce qu'il regarde.
Et peut-être j'ai envie de vous lire un autre passage, par gourmandise, dans La femme silencieuse cette fois. Janet Malcolm n'a pas rencontré physiquement Ted Hughes, elle a échangé avec lui, elles se sont envoyées des lettres, mais elle a rencontré sa sœur. Et voilà, je vais vous lire un petit passage où il est question de la sœur de Ted Hughes. Le hall du club où nous étions installés à une petite table branlante semblait confirmer que l'Angleterre tout entière s'était donné le mot pour tirer Anne vers le bas. La pièce était austère, étroite. Son papier peint beige, ses fauteuils marrons défoncés ajoutaient une touche de lugubre. Anne elle-même, qui était sortie de l'ascenseur, imperméable plié sur le bras, bottines sans chichi, lunettes à monture d'argent sur le nez qui lui donnait un air collé monté, avait un aspect terne. À 57 ans, c'était toujours une belle femme, et dès qu'elle enlevait ses lunettes, son visage en était transformé. Elle avait des yeux extraordinaires, très bleus, aux paupières lourdes, à la Virginia Woolf. Parfois, aussi, le torrent défensif qui sortait de sa bouche s'apaisait, et un zeste d'ironie venait égayer l'atmosphère tendue, lourde, de l'entretien.
En fait, Janet Malcolm, qui s'intéressait beaucoup, je vous le disais, à l'art et à la photographie, a le regard photographique. Elle présente comme ça des portraits qui sont des instantanés des gens qu'elle rencontre à certains moments. Mais comme la photographie, elle joue un jeu dont elle a bien conscience, c'est-à-dire qu'elle vous le présente comme étant documentaire, comme étant réel, ça n'en est pas moins une construction. Et elle, qui a écrit beaucoup sur la photographie, le dit, le simple fait que ce soit pris en photo change la nature de ce qu'on représente. Ça peut être exactement la même chose, ça peut être absolument fidèle à la réalité. Le simple prélèvement photographique, la simple intention fait basculer le réel dans un autre champ qui reste à définir. Et vous parliez, Thomas, de l'humour de Janet Malcolm. Elle a un humour, c'est un humour très subtil, mais c'est un humour qui est extrêmement sismique. Elle a un humour qui fait bouger ce qu'on imagine être le réel, ce à quoi on s'attend. Et elle raconte dans ce livre qui est encore inédit, mais que je traduis, où elle parle cette fois-ci d'elle-même et de sa famille à partir de photographies, quelques photographies qu'elle a pu garder de sa famille, de ses grands-parents notamment. Elle essaye de reconstituer une espèce de mémoire familiale dont elle sait très bien que elle qui a quitté la Pologne à 5 ans, des pans entiers lui font défaut. Et que la photographie est là pour combler les blancs, fournir une caution réaliste à quelque chose qui n'est pas réel. Et l'un des plus beaux exemples de son humour à elle, c'est ceci. Alors, vous ne le voyez pas, c'est une très mauvaise photo. C'est une photo où il n'y a absolument rien à voir. Il y a deux hommes de dos sur un court de tennis. C'est mal cadré, ça n'a absolument... c'est une photo ratée, quoi, tout simplement. Cette photo ratée, elle a été sur le bureau de son mari, Garner Bosford, pendant des décennies. Puis un jour, Janet Malcolm lui dit, mais... En fait, pourquoi, c'est quoi, qui sont ces gens, qu'est-ce que c'est cette photo? Et lui rigole et dit, absolument aucune idée, elle est vraiment pourrie. Donc lui, c'était vraiment une espèce de couple qui fonctionnait sur l'absurde, sur l'humour de l'absurde. Cette photo-là, l'histoire ne s'arrête pas là, il y a toujours des tiroirs supplémentaires avec Janet Malcolm. Parce qu'ensuite, un changement d'un cran se produit dans le rapport général à la photographie. Apparaissent des artistes tels que Meyerowitz, tels que Lee Friedlander, qui justement font de la photographie avec les codes de la photographie ratée, font de l'art avec les codes de ce qui n'était pas considéré comme de l'art, et nous apprennent à voir quelque chose qu'on ne savait pas voir. Et Janet Malcolm se dit, c'est le moment ou jamais. Son mari est décédé, elle ressort la photo absurde, la photo qui n'avait rien, et elle la glisse dans un article qui est publié, je crois, dans le New Yorker. Elle la glisse dedans, dans un corpus de plusieurs autres photos par des grands noms. Et elle regarde comment cette photo devient de l'art. C'est extraordinaire, c'est très drôle, mais c'est aussi sa façon de nous dire que le réel est une fabrication constante. Constante, on peut se pencher sur un fait divers vieux de plusieurs décennies, sur la mort d'une poétesse devenue une icône, en s'y penchant, en regardant les faits d'une nouvelle façon, parce qu'on est je, parce qu'on est soi et pas une autre, parce qu'on est Janet Malcolm, et vous écririez un tout autre livre, eh bien on peut construire un réel à rebours. Et là c'est fascinant parce que c'est Inception en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Tout y est, ça devait être... C'est l'une des rares personnes, vous savez, quand vous vous dites « mais je suis tombée amoureuse de son intelligence », vraiment, elle a cette façon de vous tenir en haleine, de vous séduire, mais de vous porter vers le haut. Moi, c'est ça que je garde d'elle. Et je suis très sensible à ce qu'Ariane dit de la façon dont elle est présente dans son travail journalistique, puisque c'est un travail auquel moi, je ne me risquerai jamais, je pense, justement... par scrupule, par la conscience de ce scrupule-là. Et je suis toujours admirative de ceux qui se tiennent comme ça sur cette crête entre le réel et la façon dont on le raconte et ce qu'on en fait et à qui on l'adresse finalement.
Cette table ronde, c'est l'héritage de Janet Malcolm. Peut-être qu'on peut parler justement d'héritage. Ariane Chaumin, est-ce que vous vous sentez héritière de Janet Malcolm ?
Non, j'oserais jamais dire ça. J'oserais vraiment jamais dire ça, non. Elle a son petit fantôme qui me... Voilà, qui tourne autour de ma tête et qui me reculpabilise chaque fois que les scrupules s'en vont. Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'elle fait partie de ces Américains qui ont lancé, qui ont initié une école du nouveau journalisme. Aujourd'hui, c'est plus banal, mais de non-fiction, c'est vrai que c'est une référence. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que... ou ce que disait Adrien, c'est-à-dire que... son intelligence réussit à fabriquer des intrigues. Je suis très sensible à ce que tu as dit. Ça va rester dans ma tête. Effectivement, j'aime pas tellement le mot fait divers. Et quand l'idée d'écrire sur un fait divers, ça me met pas très à l'aise. Mais effectivement, ça peut être le prétexte à de meilleures raisons. Et on rentre dans le fait divers et après on s'évade et on. Voilà, on le dépasse, quoi. Et moi, c'est vrai que je me souviens très bien quand Adrien m'a dit « Tiens, regarde ce qui s'est passé en Suisse, cette famille qui s'est défenestrée. » Je lui ai dit « Non, mais écoute, c'est horrible. Comment veux-tu que j'écrive là-dessus ? J'ai pas d'empathie. Comment veux-tu que j'ai de l'empathie pour quelqu'un, une mère de famille qui saute avec ses enfants ?» Et il m'a dit, je me souviens, il m'a dit cette phrase « Oui, mais regarde, il y avait quand même leur grand-père, c'était Mouloud Feraoun. Et grâce à ça... On quitte le sordide et on part dans une autre enquête qui est peut-être plus intellectuelle. Et ça c'est intéressant.
Adrien, vous qui avez un œil évidemment très, très, très acéré sur toutes ces questions, les héritiers, les héritières de Janet Malcolm, peut-être dans une nouvelle génération, est-ce que vous les voyez quelque part ? Est-ce que vous avez des noms à l'esprit ? Vous vous dites là, il y a vraiment une filiation ?
Je ne sais pas s'il y a une filiation, parce qu'elle avait une technique vraiment très singulière. Quand je disais qu'elle faisait de l'essai dans le journal, c'est même qu'elle transgressait la ligne du journal, d'une certaine manière, qui ne se place pas là. Elle faisait du reportage, elle faisait de l'essai dans les pages du reportage en les déplaçant. Donc elle a une singularité. Par contre, la table ronde aurait pu être lecteur de Janet Malcolm, parce que la quantité de lecteurs parmi les reporters actuels, qui la revendique comme je pense qu'il y a John Didion, elle, d'autres, mais par exemple David Graham revendique l'héritage de Janet Malcolm sans en avoir du tout la méthode. D'une certaine manière, pour rester dans les films, puisque je pense qu'elle amène à comparer à des méthodes scénaristiques, mais Graham, c'est plus l'homme qui tue à Liberty Valance, donc c'est toujours, on présente l'histoire, puis les différentes versions, et puis à la fin, on retrouve les personnages. Elle, c'est plus, voilà, c'est plus le limier, c'est plus cette manière d'interrogation, mais même, ça serait avec un sous-texte, ça serait la version où il y a les commentaires du réalisateur en dessous. Donc, plus la version avec... je ne sais pas s'il y a vraiment actuellement... l'intérêt du genre, d'ailleurs, c'est que chacun... qui arrive d'une certaine manière à apporter une pierre, c'est surtout pas quelqu'un qui reproduit la pierre, mais c'est quelqu'un qui montre qu'il y a des sous-genres dans le genre. Donc c'est John Didion, c'est pas du tout Janet Malcolm. C'est un sens de la formule qui peut parfois être assez proche. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'humour de Janet Malcolm. Pour moi, son humour, il est effectivement dans les descriptions, mais il est aussi dans les formules qu'elle a. Elle a presque une moraliste. Elle le place comme ça et je me rappelle, il y a une formule à un moment dans le livre Le journaliste et l'assassin où elle explique que, en fait, elle veut toujours à un moment quand même ne pas charger totalement l'un ou l'autre personnage et dit c'est normal finalement de ne pas dire à l'autre qu'on va écrire un livre à charge. C'est normal de ne pas dire qu'on a une telle. Faut déjà l'écouter, on ne vient pas armé de ses arguments ou de son intention. Et elle dit on ne court pas au. On ne court pas après les gens dans la rue pour leur expliquer ce qu'on pense d'eux. Je crois qu'elle a une phrase comme ça. Et c'est des petites phrases très, très fortes et qu'on souligne. Voilà, c'est le genre de livre qu'on souligne à chaque endroit. Donc, elle a cette... elle a un... et quand je disais John Didion, c'est différent. John Didion, c'est... je me faisais une image, par exemple, de Janet Malcolm qui est de quelqu'un de sec, de dur. Je me disais que là, j'écoutais une interview, je la trouve très drôle et en fait, elle a l'air très gentille. Et John Didion, par contre, une espèce de fêlure dans l'écriture où on sent qu'elle laisse déborder le réel, mais son réel à elle. Elle laisse déborder son intériorité, le fait qu'elle est en quasi-dépression quasiment constamment dans ses reportages. C'est le sujet de White Album, qui est un livre là-dessus, qui est sur sa propre dépression en même temps que ses reportages. Janet Malcolm, elle, c'est un rock, mais qui laisse de la subtilité, de la complexité, comme ça, constamment. Je ne sais pas, lecteur de Janet Malcolm, il y en a tous, la plupart des reporters que je rencontre, avec qui on travaille, me la cite comme un... comme on citerait Joseph Mitchell. Voilà, Joseph Mitchell, c'est l'autre qui est cité autant.
On va pouvoir poursuivre avec une séance de dédicaces. Mais pour nous, en tout cas, sur cette table, c'est pour cette table ronde, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous.
Merci Thomas.